C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Simon Rosé.
Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, forcément, nous allons revenir sur un dossier qui nous occupe depuis lundi. Pour nos invités, ça fait plutôt des semaines, des mois, des années qu'ils planchent dessus, la publication du deuxième volet du sixième rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. 270 personnes impliquées dans sa rédaction, 34 000 études scientifiques épluchées, 3 675 pages au total et un constat, il y a urgence. Le réchauffement climatique est là, il se fait déjà sentir et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Pourtant, les moyens d'action, eux aussi, sont là. Il ne tient plus qu'à nous de nous en saisir. Aussi sombres soient les perspectives dessinées par ce rapport, il reste ainsi, évidemment, de l'espoir. On fait le point avec nos invités.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Les températures ont atteint des records dans le Grand Ouest du Canada et des États-Unis.
Les autorités ont choisi de fermer les écoles et certains bâtiments publics transformés en fournaises.
Il a fait 46,1 degrés sur l'aéroport de Portland lundi après-midi.
Dans la nuit de l'île de Bay, les flammes semblent encore plus menaçantes. Des maisons cernées par l'incendie, des habitants impuissants.
Et voilà à quoi ressemble désormais la commune de Schulte, dans l'ouest de l'Allemagne. Ici, au moins 6 maisons situées en bord de rivière se sont effondrées sous la violence des flots, emportées dans des rues, transformées en torrents d'eau.
La ville de Mayfield, dans l'état américain du Kentucky, a été quasiment rayée de la carte après le passage d'une tornade surpuissante dans la nuit de vendredi à samedi.
Ces inondations les plus meurtrières qu'ait connues l'Europe en 20 ans, une grande partie du sud et de l'est de la Belgique s'est réveillée sous l'eau. Et des pluies diluviennes, vous le voyez, une montée des eaux qui ont déjà fait plusieurs morts.
Sur ces images satellites, le cyclone Emnati vient frapper la côte est de Madagascar. En pleine nuit, les rafales de vent atteignent parfois les 200 km par heure. Des dégâts qui se rajoutent à ceux provoqués par les cyclones Anna et Dumaco ces dernières semaines. Aujourd'hui, ce sont des milliers de personnes qui sont toujours sans toit.
Conséquences, adaptation et vulnérabilité, on vient de l'entendre, hein, on est en plein dedans. C'est le nom de ce rapport publié lundi. Nous avons le plaisir d'être avec trois de ses auteurs. Delphine Dering, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Berlin, où vous êtes chercheuse à l'université de Humboldt. Edmond Totin, bonjour.
Bonjour, Simon.
Vous êtes quant à vous enseignant à l'Université nationale d'agriculture du Bénin et vous avez coordonné le chapitre Afrique de ce rapport. Et avec nous également, bonjour Alexandre Magnan.
Bonjour.
Vous êtes géographe, chercheur à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Merci à vous trois d'être avec nous. Tout d'abord, pour commencer, on va poser un peu de contexte. Alexandre Magnan, le deuxième volet du sixième rapport du GIEC, ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaissent pas ?
Ça veut dire que le GIEC, donc c'est ce groupe de scientifiques internationaux créé par l'ONU il y a quelque temps quand même déjà et qui est chargé de faire une synthèse de la connaissance scientifique à destination des décideurs. Et il y a trois grands groupes qui travaillent dans ce GIEC. Il y a un groupe qui s'occupe des aspects très physiques du changement climatique et des aléas climatiques. Il y a un autre groupe, le groupe 2 dont on parle aujourd'hui, qui s'occupe des impacts et des réponses aux impacts. Et puis, il y a un troisième groupe qui s'occupe finalement des solutions en termes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre.
Ces groupes, ce sont vraiment des chercheurs du monde entier. C'est une collaboration internationale.
Tout à fait. C'est l'essence même des travaux du GIEC. C'est d'abord de s'appuyer sur la littérature scientifique et exclusivement sur la littérature scientifique. Ce n'est pas des points de vue de gens ici et là. C'est ce qui a été publié, donc on reflète la connaissance scientifique, et avec des points de vue qui viennent de tous les pays et de tous les hémisphères. Voilà, c'est l'idée d'avoir cette vision collective partagée d'un problème commun.
Oui, Delphine Dering, c'est peut-être important de rappeler ce mode de fonctionnement du GIEC. Il ne fait pas en lui-même des recherches scientifiques, c'est plutôt une sorte de compilation de la recherche pour définir en quelque sorte l'état de la science.
Oui, tout à fait. En fait, c'est... un processus qui se renouvelle tous les 5 ans, plus ou moins, et donc on met à jour en fait les nouvelles connaissances basées sur les publications.
Et donc pour ce volet conséquences du réchauffement climatique et adaptation, le précédent rapport daté de 2014, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça.
Ce rapport, à quoi il va servir ? À qui va être donné ? Quelle va être sa vie ensuite, Delphine Dering ?
C'est une requête des gouvernements, déjà, pour leur donner l'information scientifique sur l'effet du changement climatique, sur les impacts et sur les vulnérabilités et les possibilités d'adaptation. Donc, c'est un document qui sert donc à informer aussi les décideurs politiques, ceux qui prennent les décisions.
Ça va être une base de travail pour les futures négociations au niveau des États lors des COP, par exemple?
Évidemment, parce que nous avons aussi compilé donc de l'information régionale. Donc tous les pays peuvent regarder l'état de la situation dans leur pays et donc ça sert aussi pour les négociations.
Edmond Totin, en marge des 3675 pages de ce rapport, vous produisez également ce qu'on appelle un résumé pour décideurs. Quelle est l'idée derrière ce résumé?
L'idée derrière ce résumé, c'est d'avoir un document assez divers, assez compréhensif pour les décideurs politiques qui parfois n'utilisent pas toujours les mêmes jargons que le scientifique. Donc, en gros, c'est de produire une note qui pourrait être facilement accessible aux décideurs politiques.
En l'occurrence, pour ce deuxième volet du sixième rapport, ce résumé, il fait 34 pages. Comment est-ce qu'on condense 3675 pages, encore une fois, de recherche scientifique étalée sur des années, produite par 270 scientifiques? Comment on compresse ça en 34 pages qui satisfassent tout le monde?
C'est un exercice assez difficile. Et ce qui rend ça encore beaucoup plus contraignant, c'est les conditions dans lesquelles nous avons travaillé, où ce n'était pas forcément présentiel. On a des différences d'horaire assez grandes. Mais en gros, c'est des synthèses de chaque chapitre. C'est à partir des synthèses de chaque chapitre. Dès que le rapport est structuré, vous allez voir, c'est des chapitres. Et à l'intérieur de chaque chapitre, nous avons aussi des résumés. On se fonde fondamentalement sur ces résumés des chapitres pour produire cette note de synthèse.
Et est-ce qu'il y a des discussions, des batailles, des colères sur le choix des termes qui peuvent être utilisés justement dans la constitution de ce rapport pour décideurs?
Je pense que c'est ça qui fait même la beauté de ce processus-là, parce que c'est très inclusif, il y a une grande diversité des chercheurs. Mais là, nous sommes entrés dans une autre phase où on engage les délégués qui ne sont pas forcément du monde scientifique. Donc, il faut qu'on puisse s'entendre sur les thèmes, sur les mots. Un petit mot dans une phrase, ça peut prendre de longues heures pour faire ça. Ce qui fait que parfois, nous avons travaillé tard pour être sûr que ce que nous avons mis rencontre l'adhésion de cette déléguée.
Mais Edmond Totin, ce sont bien les scientifiques, les auteurs du rapport qui ont le dernier mot.
Non, pas toujours le dernier mot. Je pense que ça a été un processus de consensus. Parce que ce que nous avons fait, on souligne une phrase, par exemple, on met ça en jaune, on dit qu'il y a un commentaire, est-ce que tout le monde est d'accord, et voilà, les pays vont se prononcer. Moi, je ne suis pas d'accord pour tel mot, mais je peux être plus précis. Il s'agissait de la migration, par exemple, et tout le monde ne percevait pas la migration de la même façon, comme une option d'adaptation. On a tiré dessus, et quand on a le consensus, qu'on va passer cette phrase-là au vert. Donc, ce n'est pas que les scientifiques ont le dernier mot. I'm coming to the edge of the widest canyon, my companions dear. I'm starting to question my manifest destiny, my claim to this frontier. I'm coming to the brink of a great disaster, and just has to be near. The earth spins faster, whistles right past you, whispers death in your ear. Don't pretend you can't hear. Don't pretend you can't. I can hear you tender. Ones living.
rain just has to be near. Your spin faster, whistles right past you, whispers death in your ear. Don't pretend you can't hear.
Manifeste d'Andrew Bird sur RFI, c'est pas du vent, avec nos invités Delphine de Ring et de Montetin, Alexandre Magnan, tous les trois parmi les auteurs du dernier rapport du GIEC publié ce lundi.
There is no planet B.
C'est pas du vent.
There is no planet blah.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Blah, 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 blah.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Net zero by 2050, blah, 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 net zero, blah, 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 climate neutral, blah, blah, blah.
Blablabla, Greta Thunberg. Alexandre Magnan, on entend souvent que les effets du dérèglement climatique, c'est pour dans longtemps. Pourtant, la science dit le contraire. Hein, on l'a lu dans le premier volet paru en août. On le lit à nouveau dans celui-ci. Les effets se font déjà ressentir, et déjà pour une bonne partie de la population humaine.
Oui, oui, tout à fait. C'est un élément très, très fort de ce rapport. Et c'est pour ça qu'on a besoin de communiquer, que les gens comprennent ce message-là. Les impacts du changement climatique sont déjà détectables sur un tas de systèmes, les écosystèmes comme des récifs coralliens, des forêts, etc., mais aussi des systèmes humains comme les pêcheries, par exemple, dans le Pacifique. Donc on a des impacts qui sont déjà détectables. Donc effectivement, le futur, en fait, c'est maintenant. Donc soyons clairs là-dessus. Et ça touche toutes les latitudes et jusqu'aux profondeurs de l'océan. Donc en gros, on est à peu près tous concernés. Et ce que dit le rapport, il estime qu'à peu près la moitié de l'humanité, vous l'avez certainement entendu ici et là, est déjà finalement dans une situation de vulnérabilité au changement climatique.
Mais je vous propose justement d'écouter une illustration de notre envoyé spécial Com Bastin. Il s'était rendu dans l'Assam, c'est au nord-est de l'Inde, sur les rives du fleuve Brahmapoutre. C'était en septembre dernier, lors d'une de ses crues.
L'Assam fait partie du nord-est de l'Inde, une région enclavée, coincée entre Birmanie, Chine, Bhoutan et Bangladesh. Depuis des années, le gouvernement indien veut faire de cet état stratégique un carrefour avec l'Asie du Sud. La plupart des habitants pratiquent cependant l'agriculture vivrière, totalement dépendante du grand fleuve.
D'habitude, on peut venir ici en voiture ou en vélo, mais en ce moment, il faut prendre une barque. Vous pouvez voir ici des jacinthes d'eau passer sur la route. Elles envahissent les récoltes.
Probin Pegu est un agriculteur du village d'Agaratoli. À 26 ans, il a pu continuer ses études jusqu'au lycée et parle un bon anglais. Il nous invite à monter en barque pour aller voir ses champs engloutis.
There are so many water till the end.
Regardez l'eau qui s'étend à perte de vue. Tout est perdu cette année. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous avons aussi perdu les plans pour la prochaine récolte. Si le gouvernement ne nous aide pas, nous allons mourir de faim. Ici, on fait pousser du riz. Nous en sommes totalement dépendants. Certains le vendent sur les marchés ou dans des coopératives. Mais moi, je fais simplement pousser pour ma famille. Tout est sous l'eau. Il y a des crues tous les ans. Mais cette année, elle est venue très tard. Nous pensions qu'il était temps de planter, que la mousson était finie. Cela coûte environ 400 euros de lancer une nouvelle récolte. Et cela prend beaucoup de temps, évidemment.
Long de près de 3000 km, le Brahmapoutre est alimenté par des dizaines d'affluents dans l'Himalaya chinois et indien, ainsi que par l'eau des moussons. Mais sous l'effet du changement climatique, les pluies deviennent de plus en plus erratiques, pendant que la fonte des glaciers de l'Himalaya s'accélère chaque été. En conséquence, la vie dans la vallée devient impossible.
Le changement climatique est là, et cette année nous le montre encore. Il y a eu très peu de pluie et une crue soudaine. D'autres années, il y avait trop de pluie. C'est devenu imprévisible. Le nombre de crues varie beaucoup d'une année à l'autre. Planter dans ces conditions, c'est comme jouer au poker.
Dadou Douta est coordinateur pour l'ONG North East Affected Area Development Society. Il nous a donné rendez-vous dans le village éloigné de Jajimukh, pas loin duquel plusieurs rivières se jettent dans le Brahmapoutre.
La situation est très difficile pour les habitants des plaines inondables. Ici, l'agriculture est la principale source de revenus. Lorsque les récoltes sont détruites, tout est perdu. Les paysans doivent devenir travailleurs journaliers dans les villes. Très peu de gens travaillent pour le gouvernement ou dans les services. Il y a des écoles, mais elles sont trop loin et souvent détruites par les pluies. Beaucoup d'enfants s'arrêtent de toute façon très tôt pour aider dans les champs. L'infrastructure de santé s'améliore, mais en cas d'inondation, situation, il est impossible de se rendre dans les centres de soins. L'hygiène devient catastrophique et ceux qui tombent malades sont bloqués sur place, sans eau potable.
Delphine Dering, plantée dans ces conditions, c'est comme jouer au poker, dit ce paysan dans le reportage. À quel point, aujourd'hui, même les habitudes agricoles, la production alimentaire, sont déjà perturbées par le réchauffement climatique ?
Oui, alors les systèmes agricoles sont déjà perturbés justement à cause des risques d'inondation, des risques de sécheresse qui sont de plus en plus fréquents. Et il y a aussi des effets graduels comme le changement des saisons, l'augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère qui en fait stimule la photosynthèse mais qui réduit la densité nutritive des cultures. Donc plus on continue à émettre de CO2, plus ces risques vont augmenter. Voilà.
Si je vous suis, c'est plus on continue à émettre, plus en fait il va falloir semer, récolter, produire, puisque les récoltes seront moins nutritives, c'est ça ?
C'est un peu simplifié, mais oui. En fait, c'est assez complexe parce qu'il y a vraiment plusieurs impacts. Il y a l'impact du climat, donc des températures, des précipitations, les risques des extrêmes. Il y a l'impact donc du CO2. Et puis, il y a des impacts assez complexes, par exemple, dans le secteur agricole et la chaîne alimentaire. Il y a l'impact sur la production agricole, donc ça impacte le prix des aliments. Il y a aussi l'impact sur la main-d'œuvre, parce que les températures chaudes peuvent réduire la productivité de la main-d'œuvre. Donc, il y a aussi tous ces impacts en cascade peuvent contribuer à une réduction de la sécurité alimentaire et aussi à la sous-nutrition et malnutrition.
Mais Delphine Dering, là, on parle d'agriculture, de récolte. Alexandre Madurin l'a touché un mot tout à l'heure. C'est également valable pour tout ce qui concerne la pêche.
Oui, dans les océans, aussi un effet d'acidification. Donc, l'acidification réduit les nutriments des fruits de mer, de la production de la pêche. Il y a aussi le réchauffement des océans. Les espèces vont migrer dans des nouvelles régions plus froides.
Ce qui est écrit dans ce rapport, c'est que le réchauffement climatique a déjà entraîné des effets négatifs généralisés et même des pertes irréversibles. Ce diagnostic, Alexandre Magnan, il est bien plus sombre que ce qui avait été écrit lors du dernier rapport de 2014.
Oui, il pointait déjà dans le rapport de 2014, mais aujourd'hui, on a accumulé beaucoup plus de publications scientifiques et donc de preuves scientifiques qu'effectivement, on a quand même un sérieux problème. Il est étendu, Delphine le rappelait, on a des effets en cascade. Il faut bien comprendre qu'un événement extrême climatique, en fait, c'est pas en tant que tel, bien sûr qu'en tant que tel, il a des impacts directs, mais il y a aussi beaucoup d'effets en cascade qui touchent toutes les dimensions de la société et qui vont d'un pays à l'autre, finalement, les impacts des uns sont aussi les impacts des autres. Donc, on a vraiment, beaucoup plus de preuves scientifiques de tout ça, et c'est pour ça que le message aujourd'hui est assez fort. On n'en est plus simplement à l'alerte, on en est aussi à qu'est-ce qu'on peut faire. On peut faire des choses, mais vraiment, il faut le faire maintenant.
Sur ces effets en cascade, il y a un exemple que j'ai trouvé dans le rapport qui est assez parlant, je trouve, c'est celui des inondations en Thaïlande de 2011 qui avait entraîné une chute de la production industrielle mondiale de 2,5% et qui avait amené à l'augmentation du prix des disques durs des ordinateurs qui a été multiplié par 2 ou 3. C'est ça, une inondation dans un pays du monde peut avoir des répercussions globales, on le sait maintenant.
Oui, tout à fait. Il faut vraiment que les gouvernants et les populations prennent conscience de ça. Ça veut dire que les efforts d'adaptation, donc de réponse à ces risques dans un pays donné, c'est un élément important aussi pour les autres pays. Plus tout le monde s'adaptera et moins on aura ces effets en cascade. Et si les uns et les autres ne le font pas, on est quand même embarqué sur le même bateau. Désolé de l'expression, elle est un peu bateau, mais quand même, c'est la vérité.
Edmond Tautin, on parle là un peu des conséquences à l'échelle globale. Ce qui est frappant, ce qui est remarquable avec ce rapport également, c'est sa finesse, sa granularité en quelque sorte, notamment sur les impacts régionaux. Vous avez supervisé le chapitre qui était dédié à l'Afrique. Quels sont les principaux risques auxquels fait face dès aujourd'hui le continent ?
Voilà, et on a vu que l'Afrique, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique y contribue très peu, mais l'Afrique a subi des pertes et dommages importants attribuable au changement climatique dans tous ces domaines de développement, hein, la sécurité alimentaire, où on a vu que le rendement, la productivité agricole a été réduite de près de 34% depuis les années 61, ce qui est quand même très, très important. Et plus spécifiquement sur des cultures comme le maïs, qui est une culture de grande consommation depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique de l'Est et au Sud, on a vu que les rendements ont diminué de près de 6%. Et quand on dit 6%, c'est beaucoup en termes de nourriture disponible au niveau des ménages. Mais aussi, Alessandre évoquait ça, les effets cascades, ce problème sur la sécurité alimentaire a des implications sur les ressources disponibles au niveau des ménages, a des implications sur la capacité de ces ménages à pouvoir envoyer des enfants à l'école, la capacité de ces ménages à pouvoir faire face aux dépenses de santé. Donc voilà ce qu'on peut évoquer, par exemple, dans le secteur alimentaire au niveau de l'Afrique.
Il y a ces questions alimentaires dont on parlait, mais ouais, du coup, ça a des impacts en termes de santé, de santé mentale, de déplacement de la population. Est-ce que ça, dans le cadre de ce rapport, vous arrivez à quantifier ces risques ?
Absolument. Surtout pour ce qui concerne les déplacements des communautés. On a vu que, d'abord, quand nous parlons de déplacement, la migration liée au changement climatique, actuellement, ce qui se passe en Afrique, est à l'intérieur des pays. Ce n'est même pas la migration internationale, parce que les terres ne sont plus fertiles ou l'eau n'est plus disponible. Les gens vont partir dans une autre localité. On a vu, par exemple, au nord du Ghana, beaucoup de gens sont obligés de descendre dans les zones du centre où les terres, où les pluies sont plus régulières. Et on a vu que plus de 2 600 000 nouveaux déplacements liés au climatique se sont produits entre 2018 et 2019. Donc c'est pour montrer l'impact de la chose. C'est vrai que ce n'est pas peut-être très, très visible. Je m'excuse de faire ce rapprochement avec la crise que nous traversons, la pandémie. C'est lent. Mais ce n'est pas parce que c'est lent qu'il ne faut pas agir. Et je pense à Alessandre disait que nous sommes tous embarqués sur un même bateau et il faut qu'on agisse.
Et Alexandre Bagnon, justement, là, on ne parle encore que du présent, mais si on se place maintenant dans l'avenir, si on parvient effectivement à limiter le réchauffement à ce qui est prévu par l'accord de Paris, c'est-à-dire 1,5 degré, voire 2 degrés, à quel point la situation va-t-elle encore se dégrader par rapport à aujourd'hui où on est un peu plus de 1 degré de réchauffement ?
Alors elle va déjà s'améliorer, il faut regarder les choses aussi positivement, elle va déjà s'améliorer par rapport à si on ne réduit pas ses émissions de gaz à effet de serre. Et pour l'instant, on n'est pas vraiment sur la trajectoire d'une réduction drastique. Donc, réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça va permettre d'éviter l'ingérable. Si on fait ces efforts d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et qu'effectivement on atteint ces 1,5-2 degrés, on va quand même avoir une augmentation du risque par rapport à aujourd'hui. Il y a certaines études qui montrent que si on agrégeait un petit peu tous les risques et qu'on arrivait à un indice de risque global climatique, on aurait un doublement du risque actuel d'ici à la fin du siècle si on est autour de plus 1,5 plus 2 degrés. Donc il y a une augmentation quand même du risque qui est a priori en partie inévitable. On peut la minimiser, mais elle est en partie inévitable. Donc le problème est sérieux, c'est vraiment ce qu'on essaie de marquer dans ce rapport, et notre fenêtre de tir en matière de réponse est encore assez large, mais elle va se réduire au fur et à mesure du réchauffement, donc il faut qu'on s'active. Hein.
Et on va s'activer, c'est la suite justement de nos discussions sur RFI, c'est pas du vent, tout de suite après ça.
I'm no good son casada. I'm no good son catara. I'm no good son casada. In a kite. Folk a wood mama. Folk a twin vin bureau. Un catol un kong mama. Bill san vira woto. Fosan en tu da mama ni bataule ho o o nawa nen katwin bange be uyure
oh 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 nawa ned katwimbange be uyure
fateha jufisa mawaji fateha jufisa mawaji fateha jufisa mawaji kimo danson nasio bidara donuron dara kolerelo jara samala kolerelo jara samala kolerelo jara samala na khadunya amul solo
o o o nawa ner katwimange euyure o o o nawa
nawa
Fukatwimang beuro Piusona ito Futwimpo amamundo tibiwa teme Tiwaya yande
Aduna mul solo Yaga yaga sufale muje Kolere lujera samala Dunia amul solo
o o o nawa
nawa
Le Burkina Faso, Dawad, Alif Naaba, c'est pas du vent sur RFI. Nous parlons du dernier rapport du GIEC avec Delphine Dering, Alexandre Magnan et Edmond Totin, trois des auteurs.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Alors, je le disais en introduction de cette émission, le tableau dressé par ce rapport, il est sombre, mais il n'est pas accablant. Il apporte des éléments de réponse à cette question. Comment, en fait, vivre dans un monde plus chaud? C'est ce qu'on appelle l'adaptation, Alexandre Magnan. Bah, déjà, encore une fois, on va faire un peu de contexte. Le terme et tout ce qu'il recouvre n'est pas forcément clair pour tout le monde. Quelle définition peut-on lui donner? C'est quoi l'adaptation?
Écoutez, très simplement, l'adaptation, c'est la réduction des risques liés ou influencés par le changement climatique. Voilà. C'est la réponse à des événements extrêmes qui surviennent aujourd'hui, des tempêtes, des sécheresses, etc. Et la prise en compte, dans cette réponse-là, des évolutions de plus graduelles, de plus fermes, comme disait Edmond, l'élévation du niveau de la mer, par exemple. Mais c'est la réponse au risque climatique.
Delphine Dering, pour reprendre notre exemple indien sur les bords du Brahmapoutre, ces agriculteurs qui subissent aujourd'hui des crues plus imprévisibles, plus violentes, ou à l'inverse, qui doivent faire face à des sécheresses plus fréquentes, comment est-ce qu'on s'adapte à ça?
Oui, alors, on peut s'adapter jusqu'à un point, on va dire. En fait, des pratiques agroécologiques qui utilisent différentes végétations, comme les arbres, peuvent renforcer le sol, par exemple, donc renforcer le sol au risque des inondations. Pour les sécheresses, on peut utiliser des cultures plus adaptées aux températures extrêmes, ce genre de choses. Après, aussi, par rapport aux sécheresses, donc on peut utiliser plus d'irrigation, des infrastructures d'irrigation. Aussi, on peut mettre en place en fait, des systèmes d'alerte, en fait, donc des systèmes d'information qui donnent des alertes précises sur les risques pour pouvoir aussi mettre en place des dispositifs d'adaptation spontané.
Vous mentionniez les arbres, les écosystèmes. Est-ce que c'est essentiel de prendre également en compte le fait que, bah, comme Alexandre Magnan le disait, on est tous dans le même bateau, mais l'humanité n'est pas seule dans ce bateau. Il y a également tous les autres écosystèmes. Il y a la biosphère. Ils doivent être impliqués dans cette réponse.
Oui, tout à fait. En fait, on a trouvé beaucoup d'informations sur les aspects synergiques quand on préserve les écosystèmes. Ils apportent des services, par exemple, pour l'agriculture. La pollinisation est un service essentiel.
Il y a donc tous ces outils et oui, ne pas oublier, Alexandre Magnan, que l'homme n'est pas tout seul sur cette planète.
Non, non. Et que, alors, bon, le changement climatique en tant que tel, c'est un problème d'environnement. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a fait qu'il a été minimisé dans les médias, dans la sphère publique, etc. Parce qu'on a tendance à penser quand même aujourd'hui, au moins dans nos sociétés modernes, que l'environnement, bon, c'est une option. Bon, le changement climatique dit non, l'environnement, c'est pas une option. Et effectivement, ce que montre la science, c'est que c'est d'autant plus pas une option qu'en fait, ça peut nous être très, très utile de s'appuyer sur ce que l'environnement sait faire depuis 4 milliards d'années face aux changements environnementaux. Et donc ça, c'est tout le panel des solutions fondées sur la nature. On en parlait juste à l'instant. Et évidemment, l'autre message qui va avec de la communauté scientifique, c'est plus on dégrade ces écosystèmes et moins on leur permet de jouer cette fonction-là qui nous est en fait très utile. Donc même si on regardait les choses de manière très égoïste, l'environnement, ça compte.
Est-ce qu'on dispose aujourd'hui des connaissances, des moyens techniques, de tout ce qui nous permettrait de nous adapter, ou est-ce qu'au contraire, il reste encore des zones d'ombre, des questionnements sur la façon de vivre dans un monde réchauffé à 1,5 degré à 2 degrés ?
Il reste énormément de questions, évidemment. Il reste beaucoup de choses à inventer, notamment quand on essaie de mettre en lumière finalement la capacité d'adaptation des écosystèmes, comment est-ce qu'on peut mieux faire les choses. Quand on replante du corail sur des récifs qui sont en mauvaise santé, quelle espèce de corail, laquelle sera la plus résistante à un moment donné? Donc il y a beaucoup de recherches et d'innovations là-dessus. Je tiens quand même à dire que parallèlement, on a énormément de certitudes sur, si vous voulez, le changement climatique va générer par exemple des événements extrêmes. Ces événements extrêmes, on les connaît, on en a déjà vécu. C'est quand même un paquet de siècles qu'on en vit. Et donc des réponses ici et là à ce type d'événements, il y en a déjà eu, on a déjà des retours d'expérience. Et donc on a quand même des armes aussi pour s'engager vers cette réponse du futur. Donc beaucoup de nouveautés parce que les risques vont s'accentuer, s'accumuler, avoir des effets en cascade, comme on le disait tout à l'heure, plus marqués. Donc il va y avoir un changement de paysage, si vous voulez, quand même, qui est important. Mais bon, on a aussi des choses à capitaliser.
Delphine Dering, cette boîte à outils, est-ce qu'aujourd'hui, on l'utilise aussi bien qu'on devrait le faire, au bon rythme, avec les bons financements? Est-ce qu'on est à la hauteur de l'enjeu?
Non, on est assez loin. En fait, il faut vraiment doubler, voire tripler les financements par rapport à l'adaptation. Surtout, comme le disait Edmond, en Afrique, il y a beaucoup de retard par rapport aux besoins en adaptation et le risque déjà présent.
Edmond Tautin, justement, sur cette question, qu'est-ce qui fait que ça pêche aujourd'hui? Pourquoi on ne le fait pas?
Moi, je pense que d'abord, le système de gouvernance autour de ces questions d'adaptation pose problème. Tout à l'heure, mes collègues évoquaient l'aspect financier. Et je pense là, le flux financier pour soutenir les efforts d'adaptation en Afrique, c'est un vrai problème. Ces flux financiers, en général, sont largement inférieurs aux besoins. Pour donner peut-être quelques chiffres, on a vécu de 2014 à 2018, davantage d'engagements financiers étaient sous forme de dette que des subventions. Ça veut dire qu'on s'endette pour s'adapter dans un contexte incertain et que des subventions. Et on a vu que malgré cela, malgré que ce soit sous forme de dette, c'est seulement 46% de ces engagements pour soutenir ces efforts d'adaptation qui ont été libérés, et contre 96% dans d'autres secteurs de développement. Donc c'est pour montrer qu'aujourd'hui, c'est vrai, on doit s'adapter, Mais le flux financier pour soutenir ça reste toujours une contrainte majeure pour l'Afrique.
Edmond Teutin, est-ce qu'on peut dire et considérer également que l'adaptation, elle fait un peu figure de parent pauvre, entre guillemets, de la lutte contre le réchauffement climatique face à l'atténuation, on met le paquet pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et l'adaptation passe peut-être un peu au second plan au niveau peut-être des responsables politiques?
Absolument. Ça, c'est quelque chose, malheureusement, on n'a pas pu quantifier. Et on n'a pas pu quantifier quel est le flux qui s'oriente vers l'adaptation et quel est le flux qui s'oriente vers l'atténuation. Mais il est clair qu'une grande partie du financement est l'atténuation. Donc, c'est un parent pauvre.
Et Alexandre Magnan, même quand on adapte, il y a un chapitre qui est très intéressant et qui est peut-être moins connu dans ce rapport, c'est celui de la maladaptation. Donc des fois, on essaie de faire les choses bien, mais on finit par faire les choses mal.
Oui, ça arrive. Ça arrive parce qu'on ne prend pas forcément en compte la dimension de long terme. Je vous donne un exemple. Si on construit une digue en réponse sur le littoral, en réponse à une tempête, ça s'est beaucoup fait après la tempête Xynthia, par exemple, en France en 2010, et ça se fait un peu partout. Si on ne prend pas en compte la dimension de long terme, c'est-à-dire que le niveau de la mer, lui, augmente et va augmenter et continue à augmenter pendant des décennies, voire des siècles, on loupe une partie du problème et finalement, on apporte une réponse qui va plus générer de problèmes à long terme qu'elle va en résoudre en réalité. Donc ça, c'est un point qu'on essaie de mettre en avant, effectivement.
Et est-ce que le temps long est suffisamment pris en compte? Je prends pour exemple, justement, sur les littoraux, où par exemple, il y a beaucoup d'infrastructures industrielles qui sont au bord de la mer, au bord des océans. Les surélever, les déplacer, c'est des travaux qui vont prendre des dizaines, des cinquantaines d'années. Dans 50 ans, le littoral ne sera plus du tout le même que celui qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que ce sont des choses qui sont prises en compte aujourd'hui?
On commence. Alors quand c'est des nouvelles infrastructures, il y a des éléments qui sont pris en compte. Alors parfois, qui sont un peu sous-dimensionnés, on prend un niveau de une élévation au niveau de la mer d'un certain niveau, alors qu'en fait la publication scientifique à chaque fois montre que c'est le niveau, donc c'est pas facile. Donc il y a quand même des efforts. Quand les infrastructures sont déjà en place, ça devient un peu plus compliqué, hein, surélever une centrale nucléaire ou la déplacer, ça commence à devenir compliqué. Mais c'est une dimension absolument fondamentale de prendre en compte ce long terme. Et c'est ça que dit ce rapport. Il dit le changement climatique, c'est aujourd'hui, ça va continuer longtemps. Et c'est aussi urgent finalement que, bien sûr, il faut mettre le paquet sur l'atténuation, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Le truc, c'est qu'il faut mettre le paquet aussi sur l'adaptation. Et ça, en fait, on n'a plus trop le choix. Je pense que ce rapport est assez clair là-dessus.
Et encore une fois, là, on raisonne avec l'hypothèse que les objectifs de l'accord de Paris sont tenus. On est toujours dans un monde qui est réchauffé entre 1,5 et 2 degrés. Pourtant, c'est encore très loin d'être garanti. Hein. Les engagements pris par les États, s'ils sont respectés, nous amènent à un réchauffement de 2,7 degrés. Cette différence entre 2 degrés et 2,7 degrés, est-ce qu'elle est vraiment essentielle, Alexandre Magnan ?
Elle est absolument cruciale. Hein. Le rapport d'août dernier montrait que chaque demi-degré supplémentaire compte. C'était un de ses messages clés. On le voit aussi avec ce rapport-là. Chaque demi-degré supplémentaire compte en termes d'accroissement des impacts. Il y a des évaluations qui montrent que finalement les niveaux de risque augmentent d'à peu près 30% à chaque degré supplémentaire. Donc, là, on a un enjeu de croiser et à la fois une ambition climatique en termes d'atténuation et en termes d'adaptation. C'est fondamental, ça va de pair.
C'est ça qui est un peu glaçant aussi à la lecture de ce rapport, Delphine Dering. Passer 2 degrés, l'adaptation devient impossible dans certaines régions du monde. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y aurait des régions de la planète qui ne seraient tout simplement plus vivables pour l'homme?
Oui, ça, par exemple, lié à l'augmentation du niveau de la mer, les régions côtières sont de plus en plus touchées. Donc, après, aussi par rapport aux régions montagnières qui dépendent de ressources en eau des glaciers, la fonte des glaciers va aussi affecter ces régions.
D'où l'aspect essentiel donc, d'adapter, mais également d'accélérer également très fortement sur l'atténuation, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Oui, tout à fait. Et dans le secteur agricole et alimentaire, justement, les mesures d'adaptation qui ne sont pas maladaptives, donc qui sont vraiment conséquentes, sont des mesures qui aussi prennent en compte la réduction des gaz à effet de serre.
Ça prend quelle forme, par exemple?
Les mesures agroécologiques qui justement combine l'utilisation d'arbres qui séquestrent aussi le carbone, qui séquestrent le carbone dans les sols et qui réduisent les émissions des systèmes par rapport à l'utilisation d'engrais chimiques. Il y a aussi toutes les mesures qui touchent aussi la demande de nourriture moins intensive en ressources, donc les produits basés sur des sources de protéines végétales, ce genre de choses.
D'accord. Oui, on lit par exemple dans ce rapport un passage par exemple, sur la viande cultivée en laboratoire.
Oui, par exemple. Et la diversification des produits, des régimes alimentaires basés sur les légumes, les légumineuses, les fruits, le niveau de viande qui est consommé en Europe, aux États-Unis est trop important, même pour les questions de santé. Ça crée l'opposé à des risques d'obésité et d'autres risques de santé.
C'est ça qui est intéressant également avec ce rapport. Tout est intéressant dans ce rapport. C'est la connexion qu'il y a entre tous ces enjeux qui vont vers un développement plus durable, une meilleure santé pour la population mondiale. En fait, agir dans le bon sens pour le climat, c'est également agir dans le bon sens pour la santé et le bien-être des populations humaines. Et animal et végétal.
Oui, voilà. Et je pense qu'il y a aussi une question, c'est qu'on se décale du focus sur la productivité, mais on essaie aussi d'apporter vraiment un focus sur la qualité des produits. Et avec l'agroécologie, par exemple, c'est aussi cet aspect qui est intéressant.
Alexandre Magnan, la prochaine échéance, ça va être la publication du troisième volet de ce sixième rapport du GIEC qui sera publié au mois d'avril. Il sera consacré à l'atténuation. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'on doit en attendre?
On doit en attendre à peu près des messages qui ressemblent à ce rapport-là, donc de volet 2, qui est sur les solutions pour réduire les risques. Là, on doit s'attendre à un panel d'éléments sur les solutions pour faire plus d'atténuation aujourd'hui.
Et encore une fois, je le rappelle, le GIEC ne fera pas de recommandations, il présentera en fait les options dont on dispose.
Oui, le GIEC vraiment essaie de faire le point sur ce que dit la littérature scientifique et le mettre à disposition de manière digeste, c'est ce que rappelait Edmond tout à l'heure, pour les décideurs. Après, si vous suivez les conclusions du rapport du GIEC, vous avez quand même en filigrane des éléments de recommandation quand même.
Officiellement,
oui. C'est pas de la recommandation officielle.
C'est plutôt, ce serait pas mal de faire ça.
Exactement, c'est le slogan du GIEC, c'est effectivement parce que c'est un organe des Nations Unies, c'est en anglais policy relevant but not policy prescriptive, ça veut dire qui est utile à la décision mais qui n'influence pas la décision. Chacun son métier.
Pour conclure, je voulais vous lire une des dernières phrases du communiqué de presse que nous, journalistes, on a reçu lundi. C'est une citation de Hans Otto Portner, qui était co-responsable de votre groupe de travail. « Les preuves scientifiques sont sans équivoque. Le changement climatique est une menace pour le bien-être de l'homme et la santé de la planète. Tout délai supplémentaire dans l'action mondiale nous fera rater une brève fenêtre nous permettant de s'assurer un futur vivable. » Edmond Tautin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cela ?
Non, mais je dis que c'est très vrai et ça récapitule un peu tout ce qu'on a trouvé dans le rapport. Et pour donner un exemple, pour le chapitre Afrique, par exemple, nous avons vu que la perte de la biodiversité en Afrique devrait se généraliser. Et quand on va passer le cap des 1,5, et à chaque, je pense qu'Alexandre rappelait ça tout à l'heure, et à chaque augmentation de 0,5 degré, nous aurons des pertes qui seront irréversibles. Donc je pense que cette petite phrase récapitule en elle seule très bien une grande partie du document.
Delphine Dering, est-ce que vous auriez un message à passer après ce rapport du GIEC qui vient s'ajouter à tous ceux qui ont été publiés précédemment, aux habitants de cette planète, aux dirigeants, pour que l'urgence soit prise en compte enfin?
Je dirais qu'on a les informations pour faire quelque chose et qu'il faut rester optimistique et qu'il faut vraiment agir maintenant. Le problème est là et on apporte avec ce rapport quand même de nombreuses solutions, de nombreuses pistes et j'espère que les gouvernements vont écouter.
Alexandre Magnan, même question pour vous.
Écoutez, je suis effectivement bien sûr d'accord avec mes collègues et avec Hans Otto. Je voudrais simplement dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité on a une capacité de voir dans le futur sans utiliser une boule de cristal. C'est une chance, et c'est une chance dont on peut se saisir, d'autant plus qu'on a pas mal de moyens aujourd'hui pour s'en saisir. Il y a d'énormes défis, il faut transformer beaucoup de choses, il faut changer les mentalités, mais on peut le faire, et il faut absolument que la société civile s'en saisisse pour pousser le monde politique à agir beaucoup plus, de manière beaucoup plus ambitieuse.
Merci énormément à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Delphine Dering, vous êtes chercheuse à l'Université de Humboldt à Berlin. Edmond Totin, vous êtes enseignant à l'Université nationale d'agriculture du Bénin. Alexandre Magnan, vous êtes géographe à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et vous avez tous les trois participé à la rédaction de ce rapport. Rapport que vous pouvez lire, amis auditeurs, si vous le souhaitez, ou du moins le résumé pour décideurs qui est peut-être plus accessible. On mettra tous les liens sur notre site internet rfi.fr sur la page C'est pas du vent. Écoutez les scientifiques. Et maintenant, eh bien, bon, y a plus qu'à, comme on dit, on se retrouve ses manches et on s'y met. C'est pas du vent, c'était avec François Porcheron à la mise en onde. On se retrouve demain, même planète, même heure.
We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is. An emergency. We must acknowledge that we do not have the situation under control and that we don't have all the solutions yet. Unless those solutions mean that we simply stop doing certain things. We must admit that we are losing this battle. We have to acknowledge that the older generations have failed. All political movements in their present form have failed. But Homo sapiens have not yet failed. Yes, we are failing, but there is still time to turn everything around. We can still fix this. We still have everything in our own hands. Today, we use about 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can no longer save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed. Everything needs to change. And it has to start today. So everyone out there, it is now time for civil disobedience. It is time to rebel.
Ce samedi sur RFI.